SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day. Perhaps on your lunch break.
SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, quatrième et dernière partie de notre mini-série consacrée à l'histoire du programme Vacances-Travail. Dans celle-ci, on va s'intéresser aux toutes dernières nouveautés entourant ce titre de séjour dont la popularité ne se dément pas auprès des jeunes du monde entier. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et je vous retrouve en fin d'épisode. Alors, pour terminer, quelques petites innovations qui sont arrivées ces dernières années avec le programme Vacances-Travail. Donc, il est ouvert sans quota à 19 pays, dont la France. Et vous avez dit, il y en a une trentaine d'autres qui peuvent aussi venir. Mais pour le coup, il y a des quotas, il y a des limites annuelles de nombre de jeunes qui peuvent venir de tel ou tel pays. Et depuis 2019, il est possible de rester une troisième année, mais à condition de cette fois non plus de travailler 88 jours, mais le double, c'est-à-dire 6 mois au cours de cette deuxième année qui s'ajoute aux 3 mois de la première année, à nouveau dans des fermes ou dans des zones régionales assez reculées. Et puis pour un certain nombre de ressortissants de différents pays, dont la France, la limite d'âge a été repoussée à 35 ans. C'est le signe que le PVT, c'est vraiment une bonne affaire pour l'Australie, j'imagine.
En fait, de manière générale, c'est une bonne affaire pour tout le monde. Parce que souvent, les jeunes reviennent dans leur pays avec des étoiles plein les yeux. Ils ont passé une année exceptionnelle. Ils se sont fait des amis de tous les coins du monde, puisque étant exposés aux backpackers. D'ailleurs, souvent plus d'amis étrangers que d'amis australiens. Et par ailleurs, ils ont voyagé, ils ont vu des choses que leurs amis en France n'auraient peut-être pas vues non plus. Donc, ça leur bénéficie. On a parlé de ces abus, c'est vrai, ils existent, ils sont minoritaires. De façon générale, ça demeure une bonne expérience pour les personnes qui bénéficient de ce visa vacances-travail. Et c'est une excellente affaire pour le gouvernement australien, non seulement parce que ça permet de donner de la main-d'œuvre là où il en manque, parce que des impôts sont récoltés et parce que la majorité des salaires gagnés en Australie restent en Australie, puisqu'il faut bien s'habiller, se loger, se nourrir, et tout ça se fait sur place. Et donc l'extension de l'âge, évidemment, elle correspond au fait que la définition de la jeunesse s'est un peu allongée d'une part, que les profils, surtout dans des pays comme la France, sont un peu plus mobiles qu'ils ne l'étaient auparavant. Et surtout pour les Australiens, c'est faire un peu de dumping social. Et le visa vacances-travail, il est excellent pour l'Australie de ce point de vue-là, parce que l'Australie a toujours importé des travailleurs, surtout dans le Queensland, qui venait des îles du Pacifique, avec des contrats qui étaient plus proches d'une forme d'esclavage. Donc tout ça, on l'a abandonné au début du siècle précédent, mais cette demande de travailleurs, elle existe toujours. Récemment, il y a eu un accord entre la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement du Queensland, je crois, justement pour continuer à proposer des situations où vous avez un peu d'éducation, de langue, mais aussi de travail dans les fermes. Et donc le visa vacances-travail, il fonctionne très bien pour les personnes qui en bénéficient de manière générale. Et il fonctionne aussi très bien pour l'Australie et surtout pour des industries avec forte capacité de gêne sur le gouvernement, hein, comme nos agriculteurs en France, comme le secteur du BTP, des transports, où vous avez toujours des demandes en flux qui sont saisonnières et vous n'aurez jamais assez de la population locale. Et donc, avoir cette main-d'œuvre sur place est extrêmement, c'est extrêmement important et c'est devenu un enjeu politique, hein, réellement, depuis 2005 de façon un peu cachée, mais depuis ces quatre dernières années, c'est discuté dans la presse et vous avez des représentants d'industrie locale qui montent au créneau et qui lobbient le gouvernement pour avoir encore plus de visiteurs vacances-travail, tellement l'industrie australienne en demande et en bénéficie.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Alors, c'était le dernier point que je voulais aborder justement. On a vu qu'à l'origine, ce programme visait à favoriser les échanges culturels, que au cours de son existence, très vite, il y a une dimension économique très forte qui est aujourd'hui sans doute dominante. Et la dernière modification de ce programme, j'aurais tendance à penser qu'elle est pour le coup, elle a des visées purement politiques, puisque j'ai perdu la date, mais il me semble que ça fait seulement un an ou deux, les seuls citoyens britanniques, parmi donc une quarantaine de pays qui peuvent venir en Australie par le biais de ce programme, peuvent eux désormais rester 3 ans ininterrompu en Australie sans avoir à faire donc ces boulots agricoles ou dans des régions très isolées. Pourquoi ils ont droit à un tel traitement de faveur, les Britanniques?
C'est la famille, Grégory. Je vous le dis en rigolant, mais c'est une réalité historique. Mais le gouvernement australien vous dirait simplement, mais écoutez, c'est tout à fait logique que nous ayons besoin de ces personnes-là plus près des villes, et non pas dans les fermes, parce qu'elles parlent couramment anglais, ils peuvent répondre à des besoins dans des industries où vous avez besoin de parler couramment anglais. Quand vous ramassez des mangues, vous pouvez parler italien, espagnol, français, ça pose pas tellement de problèmes. Vous n'êtes pas dans une situation de relation client ou service, etc. Et donc, si vous avez un fort accent italien ou français et que vous travaillez dans le restaurant français ou italien du coin, c'est super. Généralement, ça fait bien et les Australiens sont très contents. Mais si vous allez travailler dans une entreprise de service, vaut mieux effectivement que vous soyez absolument, que l'anglais soit tout simplement votre langue maternelle. Donc il y a des raisons culturelles, historiques, mais surtout en réalité pratiques et économiques. Et surtout, et le dernier volet, qui est un peu plus pervers, c'est le fait que le gouvernement australien s'est rendu compte que de plus en plus de personnes bénéficiant du visa vacances-travail essayaient finalement d'accumuler certains visas pour pouvoir rester en Australie et devenir résident permanent. Alors, je vais y revenir parce que c'est pas du tout la meilleure option, mais enfin, elle est quand même possible. Et donc, si l'on veut sélectionner sans sélectionner, et comme il faut rester pas mal de temps en Australie pour pouvoir demander la résidence permanente, eh bien dans ces cas-là, une fausse manière de privilégier les Britanniques, qui sont des populations généralement blanches. Donc il y a aussi ce côté impérial et anciennement raciste qui n'est pas totalement évincé de ces politiques, hein, il faut le dire. Eh bien, ça permet de leur donner un petit avantage comparatif. Parce que l'immigration australienne en Australie aujourd'hui est dominée par les pays d'Asie, en particulier la Chine ou d'Indo-Pacifique, l'Inde également, avec des migrations britanniques qui a décliné tout au cours du XXe siècle par rapport à l'expansion de celles d'autres pays. Et je reviens sur un point fondamental, c'est qu'effectivement, il y a encore certaines années, on pouvait se rencontrer des personnes qui vous expliquaient que voilà, elles étaient en Australie depuis 10 ans et que à l'origine elles étaient venues passer un an en vacances travail et qu'elles étaient devenues citoyennes après. Ce sont des cas assez rares. Ils existent, mais c'est souvent beaucoup de sacrifices. Alors parfois, voilà, vous avez un tapis rouge qui vous est déroulé et ça se passe très bien. Mais de manière générale, c'est pas le chemin le plus simple et le plus court pour pouvoir rester en Australie. En réalité, la plupart des Français qui sont établis en Australie le sont par différentes voies. le recrutement sur des postes spécifiques et donc liés à des qualifications. Ça, c'est de la migration économique. Donc, en fait, on vous propose un contrat avant même que vous soyez arrivé en Australie et vous venez travailler pour de grandes multinationales, parfois françaises, hein, et il y en a de très nombreuses qui sont implantées en Australie. Un autre chemin, ce sont évidemment les études, parce que si vous faites un master ou un doctorat en Australie, ça vous ouvre la porte à un vrai visa de travail dans toutes les industries, alors que le visa vacances-travail, finalement, il est assez limité dans les possibilités qu'il offre en termes de travail, parce que justement, le but, c'est ne pas que vous ne restiez pas. Et puis, il y a aussi le pathway, enfin le chemin familial ou tout simplement être en relation avec un Australien ou une Australienne, ou marié à une Australienne ou un Australien, qui fait que vous puissiez rester. Donc, c'est un peu un miroir aux alouettes que de se dire, je vais avoir un visa vacances-travail, je vais travailler dans des fermes, et puis un an, deux ans, trois ans, et puis finalement, ils vont me garder. Ça peut arriver. Mais généralement, ça se finit en pleurs à l'aéroport parce que les conditions d'immigration en Australie sont excessivement strictes et que si vos qualifications ne rentrent pas dans les besoins très précis de la liste des jobs dont l'Australie a besoin, qui est publiée chaque année et revue chaque année, eh bien malheureusement, vous ne rentrerez pas. Si l'objectif est de rester en Australie, vaut mieux penser à des chemins différents que le visa vacances-travail, qui est plutôt un visa de découverte des autres, de découverte de soi et de vacances, et puis de mettre un peu de beurre dans les épinards à mesure que l'on voyage.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Romain. Il y a un point que j'aurais bien aimé aborder, mais on n'a pas eu le temps, c'est que je me posais la question de l'économie du 4x4 et des vannes en Australie serait-elle à la ruine sans les backpackers, mais ce sera peut-être pour un autre épisode. En tout cas, merci beaucoup pour cette plongée dans ce programme Vacances-Travail et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur l'histoire de l'Australie. Merci Romain et merci à tous ceux qui nous suivent.
Merci, au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
Streaming 13th to the 17th of May on SBS On Demand, the Eurovision Song Contest.
Hi, I'm Delta Goodrum, and I am so excited to be representing you at the world's biggest song contest.
This year, global powerhouse Delta Goodrum takes the stage for Australia.
I'm taking you all with me with my brand new song, Eclipse. Eurovision, here we come.
The Eurovision Song Contest, 13th and the 17th of May on SBS On Demand.